120 terroristes ont été neutralisés au cours d'une opération militaire conjointe lancée le 1er février par des éléments des forces armées nigériennes et de la force française Barkhane dans le sud-ouest du Niger, a annoncé vendredi 21 février le ministère nigérien de la Défense. L'opération a eu lieu dans le nord de la région de Tillaberi, située dans le sud-ouest du Niger et frontalière du Mali, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le bilan à la date du 20 février 2020 s'établit comme suit. Côté ami, aucune perte n'est à déplorer. Côté ennemi, 120 terroristes neutralisés, dont 23 dans le triangle Inates-Tongo-Tongo-Tilloa. 10 motos et divers équipements servant à la réalisation d'engins explosifs improvisés et à l'observation saisis et détruits, indique le texte lu à la radio publique. Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou Katambe, a salué la coopération avec le partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces armées nigériennes. Cette opération conjointe cadre avec les recommandations issues du sommet de Pau du 13 janvier 2020. La région de Tillaberi est une vaste zone instable de près de 100 000 km riveraine de la zone des trois frontières, Niger, Burkina Faso et Mali. Le ministre français des Affaires étrangères est attendu ce samedi 22 février au Mozambique. Il devrait être question de politique, d'économie, mais aussi de terrorisme. Jean-Yves Le Drian, qui est en déplacement dans l'océan Indien, cherche à resserrer les relations avec Maputo. Dans la capitale du Mozambique, on ne déroule pas souvent le tapis rouge pour des ministres des Affaires étrangères français. La dernière visite d'un chef de la diplomatie française remonte à 2002. Ce qui n'empêche pas le Mozambique d'accueillir les investisseurs français. À commencer par le géant Total, qui est en train de construire dans le nord l'un des plus importants sites de liquéfaction de gaz naturel d'Afrique. Les réserves mozambicaines de gaz offshore sont parmi les plus importantes du monde. Mais il y a un hic. Depuis 2017, des terroristes multiplient les attaques dans la province gazière de Cabo Delgado. Ces chebabs sont en relation non pas avec les chebabs somaliens, avec le groupe Daesh. Et Jean-Yves Le Drian doit en principe aborder le sujet avec son homologue mozambicain et le président Philippe Nyusi. La France et le Mozambique devraient donc évoquer une éventuelle coopération en matière de sécurité. Selon une bonne source, il sera question entre Paris et Maputo, entre autres, d'échanges d'informations. Samedi 22 février, une demi-douzaine de boutiques sont parties en fumée au marché de la cimenterie en haute banlieue de Conakry. C'est le quatrième marché à prendre feu ce mois-ci et au moins le 17e incendie de la semaine dans la capitale. Les sapeurs-pompiers manquent cruellement de moyens pour faire face à ce phénomène dont l'ampleur inquiète en ce début d'année et qui engendre des pertes matérielles considérables, mais aussi des vies humaines. Le corps d'une fillette âgée de 5 ans a été retrouvé parmi les débris de tôle calcinée, non loin de l'entrée du marché de Matoto où Arafan Kondé gère un centre d'informatique. Il y a une usine clandestine qui a pris feu et le feu s'est propagé chez nous. Tout est parti en fumée. Il estime que l'ampleur des dégâts matériels est énorme et s'élèverait à des milliards de francs. Une citerne de l'entreprise indienne de plastique Tapoz est intervenue. Ses agents prêtent main forte à la protection civile, dont la capacité des véhicules ne dépasse pas 3000 litres, soit 5 minutes d'intervention à plein régime. L'homme d'affaires David Blattner a été transféré ce vendredi 21 février à la prison de Makala. Détenu depuis mercredi, le patron de l'entreprise de BTP Safrica a été entendu dans le cadre des soupçons de détournement de l'argent dédié aux sautes de moutons à Kinshasa. Ces ouvrages d'infrastructure avaient été annoncés par le président Tshisekedi il y a presque un an, dans le cadre de son programme dit des 100 jours. Un an après l'annonce, les travaux ne sont toujours pas terminés. Et alors que la présidence était mise en cause sur sa gestion, le chef de l'État avait demandé un audit. Cette demande aboutit aujourd'hui à cette première arrestation. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, il s'agit d'une arrestation à des fins d'enquête. Toutes les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité n'ont pas été réunies. Le patron de Safrica n'a pas été le seul à être interpellé. Le responsable de Craigset, une des sociétés chinoises impliquées dans ces travaux, aurait lui aussi été retenu pendant longtemps pour son audition, mais a été libéré depuis. L'objectif de cette enquête, selon le vice-premier ministre en charge de la justice, est de répondre à la colère de la population dépitée par l'absence d'avancée des travaux. Au Soudan du Sud, l'ex-chef rebelle Riek Machar a été investi samedi 22 février à Juba, premier vice-président. Il a prêté serment et a été ainsi officiellement rétabli dans ses anciennes fonctions de vice-président. Cette cérémonie constitue le point d'orgue de l'accord de paix entre les deux dirigeants, censé mettre fin à 6 ans de guerre civile. « Je jure d'être fidèle à la République du Soudan du Sud », a déclaré l'ancien chef rebelle devant un parterre de diplomates et de représentants des pays voisins, dont le dirigeant du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Riek Machar a également tenu à réaffirmer son engagement et celui de son mouvement à travailler avec tous les partenaires et en particulier avec le président Kiir afin de mettre en place cet accord de paix dans les faits et dans les esprits. Les Comores votent ce dimanche 22 février pour le second tour des législatives. L'opposition n'a pas envoyé de candidats à ces élections, décidant de les boycotter. L'atmosphère est assez calme dans le pays. L'Assemblée nationale du pays compte 24 députés et 19 d'entre eux ont déjà été élus directement au premier tour. Les candidats toujours en lice sont tous issus de la mouvance présidentielle ou sans étiquette, mais proches du président Azali Assoumani. Il n'y a donc guère de suspense dans ces élections législatives dont les meetings de campagne ont été quasi inexistants. Dans la capitale, par exemple, le parti radis du porte-parole du gouvernement a annoncé son retrait de la course à l'ouverture des campagnes d'entre-deux tours au profit de son adversaire, issu de la CRC d'Azali Assoumani. Les électeurs de l'île de Moéli connaissent déjà leurs 4 représentants de la nation, tous élus dès le premier tour et tous issus de la CRC. Sur 24 circonscriptions, le parti du président qui n'avait que 2 députés sortants en compte d'ores et déjà 16 parmi les 19 élus dès ce premier tour. Dans la suite de notre émission Afrique en marche d'aujourd'hui, je vous invite à suivre l'entretien de notre journaliste avec le géopoliticien Luc Michel au sujet de la récente tournée africaine de Pompeo.
Il faut maintenant comprendre pourquoi tout cela est difficile à suivre et à comprendre. C'est qu'il y a une bataille de propagande engagée par l'administration Trump et que vient soutenir notamment Pompeo. C'est de faire croire, si vous ne consacrez pas plus d'hommes, plus d'argent au combat avec nous, c'est-à-dire si vous ne payez pas votre impôt du sang à la guerre américaine dans le monde, eh bien, nous allons nous dégager. C'est le même chantage qui a lieu en Europe vis-à-vis des pays de l'OTAN. Il a eu lieu à la conférence de Munich qui s'est tenue il y a quelques jours sous la sécurité. Et c'est le même chantage qui a lieu en Afrique. Au milieu de tout ça, il y a une fausse querelle entre les Français et les Américains. La France, elle joue, c'est un peu comme dans les films, vous savez, de gangsters d'Hollywood. La France, c'est le gentil et l'Amérique, c'est le méchant. En réalité, la France, elle participe aux mêmes objectifs que l'Amérique. Il y a un axe géostratégique Paris-Washington depuis les années 2007-2008, essentiel au maintien de la France comme une grande puissance dominante en Europe et en Afrique. Et les Américains ont demandé à Paris, et Paris demande aux Européens, aux Africains, exactement ce que veut Donald Trump, plus d'hommes, plus de participation, etc. On est dans une série de poupées gigognes, on n'ose pas employer le terme de poupée russe, puisque c'est une campagne anti-russe, mais il y a la poupée américaine qui coiffe la poupée française, qui coiffe la poupée OTAN, qui coiffe la poupée Afrique. Le but de tout cela, c'est fournir au Pentagone et à l'Africom leur infanterie sénégalaise, l'infanterie sénégalaise européenne de l'OTAN, l'infanterie sénégalaise africaine, celle du G5 Sahel, etc. Maintenant, quel est le but de tout cela? Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que l'Amérique, c'est le pays de la géopolitique. La géopolitique a une réputation parce qu'à un moment donné, elle a été utilisée par l'Allemagne, celle de Guillaume II et celle du Troisième Reich. Elle a la réputation d'une science allemande. Elle a eu la réputation d'être une science au service de l'impérialisme allemand. Mais la géopolitique, elle est née au XIXe siècle. C'est exact en Allemagne, mais surtout aux États-Unis. C'est la géopoliticien américain, des gens comme Spikeman, comme Mahan, etc., qui ont défini l'impérialisme américain et anglo-saxon. Le plus grand d'entre eux, le plus récent, étant Zbigniew Brzezinski, qui est mort il y a quelques mois, si mes souvenirs sont bons, à la fin de 2017. Qu'est-ce que cette géopolitique américaine nous dit ? Pour commencer, elle suit ce que font les autres. Elle sait que maintenant la Chine n'a plus une géopolitique comme elle avait depuis 1000 ans, régionale, s'intéressant à l'Indonésie, à la mer de Chine ou à l'Indochine. Elle a une géopolitique mondiale avec Xi Jinping. Les géopoliticiens américains, les gens comme Friedman, qui a écrit le livre de Nixon Retired, où il parle de la Troisième Guerre mondiale, où il explique que le but de l'Amérique au XXIe siècle, c'est comme au XXe siècle, de faire un siècle américain, c'était déjà le programme des néoconservateurs de George Bush, eh bien, les Américains, ils savent quels sont les projets de la Russie. La Russie de Poutine, vous avez vu que Poutine, il prépare aujourd'hui, institutionnellement, le nouveau système politique russe, de façon à ce que son œuvre géopolitique continue. Poutine a dressé des plans pour qu'en 2050, la Russie, qui aujourd'hui est une grande puissance régionale, mais n'est plus que l'ombre de ce qu'était l'Union soviétique, c'est-à-dire la superpuissance mondiale rivale de Washington, Poutine veut qu'en 2050, Moscou soit de nouveau la capitale d'une superpuissance mondiale. Il a en particulier dressé des plans pour constituer ce qui est la rivalité de la puissance américaine. Qu'est-ce qui fait que les Américains sont puissants ? C'est une puissance maritime avec des flottes sur les 6 océans du globe, des bases militaires partout dans le monde, plus de 350, et 400 grands navires de surface, 14 porte-avions. Trump a inauguré le 14e en 2017. À côté de ça, les Russes, les Chinois, les Français, les Américains, les Indiens, ils ont tous un ou deux porte-avions. Donc, la puissance américaine, c'est une puissance maritime. Que veut Poutine ? Il veut, comme du temps de Brejnev, Brejnev qu'on appelait aussi l'Africain, parce que c'est celui qui s'est intéressé au dossier de l'Afrique, il veut qu'il y ait des flottes russes sur les 6 océans du globe, capables de rivaliser avec les États-Unis. C'est la grande leçon de la géopolitique. Dans la géopolitique, il y a un cas d'espèce, il y a une base, qu'on a constaté dans toute l'histoire, depuis le conflit entre Rome et Carthage, c'est la puissance continentale contre la puissance maritime. Puissance continentale, c'était Rome, maritime, c'était Carthage. Aujourd'hui, la puissance continentale, c'est Moscou et Pékin, et la puissance maritime, ce fut Londres, et c'est aujourd'hui les États-Unis. Les stratèges russes savent que nulle part dans l'histoire, la puissance continentale n'a vaincu la puissance maritime si elle ne s'assurait pas la maîtrise des océans, des mers du globe. C'est cela qui est à l'œuvre aujourd'hui. Vous avez vu qu'on parle beaucoup d'une nouvelle arme. L'arme nucléaire n'étant plus décisive, ce sont les fameux missiles hypersoniques qui frappent à l'aveugle. Les missiles hypersoniques, ils ont une première utilité, ce ne sont pas des armes pour frapper les territoires, ce sont des armes pour frapper les flottes. Pour le combat naval, on frappe depuis l'espace des flottes devenues impuissantes. Les États-Unis viennent de développer une doctrine militaire, avec Friedman notamment, mais aussi avec les gens de Trump, pour que dorénavant la puissance maritime américaine soit basée sur les missiles hypersoniques. Les Russes mènent évidemment des recherches dans le même domaine. Ils n'ont pas l'avance que certains voudraient leur prêter, mais ils ne sont pas en retard. C'est la guerre du XXIe siècle. Celui qui maîtrisera cela maîtrisera la Troisième Guerre mondiale, au milieu de toutes celles-là, c'est pour ça que Pompeo est en Afrique, l'armée américaine doit se redéployer, elle doit augmenter la part de ses alliés, elle doit surtout empêcher qu'avant même que la guerre ne commence, les Russes ne soient déjà installés, n'aient pris le contrôle d'une grande partie de cette Afrique qui est capitale pour l'évolution géopolitique du monde.